Cours de philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Jodard, le 22 mai 1991.
Mon père, faudrait-il distinguer un acte de la volonté et un acte volontaire? L'acte de la volonté pouvant être simplement un acte conscient. L'acte volontaire étant l'acte propre de la volonté, c'est-à-dire un acte habité par la présence actuelle d'une fin spirituelle. Moi, je vois très bien. On va essayer de voir ça. Vous anticipez, c'est bien. C'est toujours bien d'anticiper. Donc la dernière fois, on voyait comment il y avait en nous divers niveaux d'appétit. Le point de vue de la passion, qu'on a déjà vu du reste dans Philosophie du vivant, et puis on est obligé de poser une nouvelle faculté, une nouvelle puissance. Le point de vue de ce que saint Thomas appelle l'appétit spirituel et qu'il appelle la volonté. Voluntas, qui est l'appétit spirituel. On pourrait voir s'il y a une distinction entre les deux. Philosophique, vous comprenez bien, si je fais une petite topique, quels sont les philosophes qui ont accepté la voluntas, la volonté, la poulessis? Vous savez qu'il y a une petite querelle intéressante du reste, là, savoir à quel moment est apparu en philosophie grecque le point de vue de la poulessis. Toute une tendance aujourd'hui qui dit que Aristote n'a pas découvert la poulessis et que c'est les stoïciens. Je crois que ce n'est pas juste, étant donné qu'Aristote parle de l'acte volontaire. Et comme il parle de l'acte volontaire, l'acte moral est volontaire. Il y a le volontaire et l'involontaire dans l'éthique. C'est évident que dans le péripsuchès, à cause de ça du reste, hein, il ne parle pas de la volonté. Et ça, c'est parce que on ne comprend pas l'aspect très formel d'Aristote dans le péripsuchès. Il parle des degrés de vie. Or, les degrés de vie ne se prennent pas du côté de l'affectivité, se prennent du côté de la connaissance. Vous voyez ? Donc ça, je crois que c'est très important, c'est là le gros obstacle. Au point de vue interprétation de la philosophie d'Aristote. Si je veux découvrir ce que c'est que la poulessis pour Aristote, je dois la regarder en éthique. Et non pas dans le péripsuchès. Comme si je veux savoir ce que c'est que les passions dans Aristote, je ne dois pas les regarder dans le péripsuchès, mais dans la rhétorique. C'est très curieux, ça. C'est intéressant, du reste. Alors ça pose des problèmes historiques et de critique historique. Pourquoi Aristote ne parle pas des passions dans le péripsuchès? Pourquoi ne parle-t-il pas de la poulessis dans le péripsuchès? Il n'en parle que dans l'éthique, que dans la rhétorique. C'est parce que je crois que le péripsuchès, comme le nom l'indique, est très significatif. Il cherche ce que c'est que l'âme. Nous sommes très influencés par le point de vue de la psychologie. Or, la psychologie regarde avant tout notre conditionnement affectif, en premier lieu. Vous voyez, quand vous regardez Freud, par exemple, Freud ne parle pas du tout de la connaissance. Il parle avant tout refoulement qui se prend du côté affectif. Y a-t-il des refoulements intellectuels? Je posais la question à un freudien. Elle n'a pas su me répondre. Je dis, c'est ennuyeux. Est-ce que vous devriez savoir, ça? Est-ce que vous pouvez, avec votre psychanalyse, discerner le premier moment où la vie intellectuelle est apparue? Mais dis non. Alors, je dis, vous voyez, votre analyse n'est pas assez poussée. avez une analyse de l'affectivité. Or, l'analyse de l'affectivité est une analyse très peu poussée comparativement à l'analyse de la connaissance. Et c'est à ce moment-là où j'aurais montré l'étude des passions chez saint Thomas, qui est bien plus fouillée que l'étude des passions au point de vue psychologique. Puisque pour saint Thomas, il y a 11 passions. Vous voyez, alors, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre. C'est une méthode philosophique dont on a de la peine à entrer dedans aujourd'hui. Parce qu'on n'a plus du tout cette méthode philosophique. La méthode d'Aristote est une méthode d'analyse très fouillée par le point de vue de l'objet. Où il part de l'expérience qu'on a de notre affectivité et on analyse cette expérience. On ne fait pas que la décrire. Ça, je crois que c'est très important pour éviter certaines querelles. Vous voyez, préjugés. Moins on attribuera à Aristote, mieux ça vaudra. Alors qu'Aristote parle tout le temps de l'acte volontaire. Mais s'il parle de l'acte volontaire, ça relève quand même de la volonté. Je crois. Vous ne pouvez pas expliquer philosophiquement l'acte volontaire sans poser la volonté. Ça me semble élémentaire. Bon, ceci, c'est un nota bene intéressant au point de vue historique aujourd'hui. Parce que ça fait partie de ces petits problèmes d'aujourd'hui. Alors, je reviens au plan de notre recherche philosophique qui présuppose tout ça. Si on avait le temps, on ferait toute une grande topic sur le volontaire, sur la puissance de volonté telle que les philosophes l'ont conçue, telle que les stoïciens l'ont vue. Parce que ça, tout le monde est d'accord que les stoïciens ont découvert la volonté, la poésie. C'est pas étonnant. Les stoïciens sont les philosophes de la volonté et du primat de la volonté. Aristote, au contraire, est de ce sens-là proche de Socrate et proche de Platon, parce que ce sont des philosophes beaucoup plus de l'intelligence. Mais c'est quand même des philosophes de la philia. Et la philia relève de la volonté, je crois. La philia ne relève pas seulement de l'intelligence. Alors, textuellement, pour Aristote, il y a la philia. Et dans la philia, il y a le choix. Mais le choix est volontaire. Il implique l'intelligence, mais il est volontaire. Donc, je reprends ce que je vous disais la dernière fois. Nous constatons trois moments importants du volontaire. Ce premier amour, l'éveil de ce premier amour, vous voyez, que je regarde ici, non plus au niveau éthique, à partir de l'amour d'amitié, mais que je regarde en lui-même. Qu'est-ce que c'est que cet amour premier? Cet amour spirituel, naturel, spontané. J'aime quelqu'un. Quelqu'un éveille en moi un amour. Vous voyez, mon analyse va plus loin qu'en éthique. Cet amour premier, cet amour simple, spontané, j'aime. Je raisonne pas, j'aime, c'est tout. Et l'amour est au-delà du raisonnement. Et l'amour ne naît pas du raisonnement. Ce sont des amours rationnels qui naissent du raisonnement. Donc c'est des amours bâtards. Vous savez bien, quand on dit qu'il y a des mariages de raison et des mariages d'amour, on voit très bien ce que ça veut dire, des mariages de raison. C'est les familles qui s'unissent, ça irait tellement bien. Les mères s'entendent très bien. On est d'une même famille, du même genre. On se ressemble, mêmes habitudes familiales. Oui, mais c'est pas à partir de là que naît l'amour. Alors on est épaté quand, de fait, le garçon aime une pauvre fille, quoi. Il l'amène au foyer, il dit, mais comment, quelle idée tu as? C'est pas une question d'idée, c'est une question d'amour. Oui, c'est très curieux, comme, au fond, la culture française, c'est pour ça que quelquefois, ceux pas le, sont pas passés par Descartes. Ils disent, mais ces pauvres Français, qui sont secs. Ils n'aiment pas. Parce que pour Descartes, l'amour, c'est la passion. La volonté n'est pas source d'amour. C'est quand même très important de se rappeler ça. Et Descartes a joué un très grand rôle au plan philosophique, ça on peut pas nier. Descartes, Kant, Hegel. Hein? Ce sont des sommets plus ou moins élevés. Mais c'est quand même les trois qui ont commandé toute notre philosophie européenne à partir du XVIIe siècle. Et là, Descartes a une conception de la volonté qui est très particulière. La volonté est source d'efficacité. Dans le langage français, cet homme est un homme volontaire. Vous savez ce que ça veut dire? C'est pas un homme de cœur. Alors, il faut dépasser ce point de vue-là pour redécouvrir ce que c'est que la volonté. Je pars donc de ce premier amour que j'espère nous avons tous eu l'expérience. Sauf si nous avons un cœur dur comme pierre, on n'a jamais aimé. C'est triste. C'est un manque d'avoir jamais aimé. Ça poussera peut-être à 45 ans. C'est très, très dangereux quand ça pousse à 45 ans. C'est un volcan, souvent très impétueux. Tandis quand ça a commencé à 15 ans, c'est gentil. Et on commence à comprendre ce que c'est, puis après, un peu plus tard, ça repousse. C'est terrain volcanique. Cet amour premier, un jaillissement. Cet amour plus réfléchi, l'intention de vie, une fin. Cet amour beaucoup plus réfléchi, le choix. On voit là aussi cette chose très intéressante à voir, parce que quand on retraite de la volonté, il faut essayer de comprendre le lien entre la volonté et la liberté. Pour Descartes, la liberté est antérieure à l'amour. C'est très curieux. L'amour naît de la liberté. Alors que si je réfléchis sur ma vie, si je ne suis pas cartésien, si je suis un peu plus spontané que Descartes, si je réfléchis sur ma vie, je vois que l'amour est antérieur à la liberté. Parce que l'amour est spontané, premier. La liberté n'est jamais spontanée. Elle est toujours réfléchie. La liberté apparaît avec l'intention de vie. Et la liberté apparaît avec le choix. Mais il y a quelque chose d'antérieur à la liberté, qui est un amour. Premier, spontané, direct. J'aime. Alors, je dois me demander maintenant ces trois actes que je constate, qui sont vraiment des actes volontaires, dans lesquels l'intelligence est peut-être présente. L'intelligence est plus présente dans le choix que dans l'intention de vie, et plus présente que dans ce premier amour. Où j'ai l'impression que l'intelligence est très peu présente. Pourquoi? Parce que la hâte de l'amour a devancé l'intelligence. L'amour a une espèce de spontanéité bien plus grande que l'intelligence. Je ne suis pas spontanément intelligent. C'est-à-dire, je suis spontanément amoureux. Ça, c'est net. Pour être intelligent, j'ai dû travailler, réfléchir, et avoir eu cette volonté de rechercher la vérité. Tandis que je n'ai pas eu du tout cette même attitude par rapport à l'amour. J'ai commencé à aimer, je me dis c'est merveilleux. Ça a épanoui quelque chose en moi. Alors est-ce que ces trois actes relèvent de la même puissance spirituelle? C'est la grosse question. Au point de vue philosophie du vivant. premier amour se porte sur un bien spirituel. Personne. Ou c'est très lié à la passion, c'est évident. C'est très lié à la passion. C'est très volcanique. Mais c'est quand même le bien. C'est quand même cette personne que j'aime. C'est elle qui m'attire. C'est mon bien. Dans l'intention de vie, c'est le bien en tant que fin. Ah, donc, distinguons bien la différence entre le bien et la fin. Et dans le choix, c'est le bien encore que je choisis, c'est l'ami. Donc, vous avez trois choses hein, que je peux bien distinguer. Le bien spirituel, la personne qui est pour bien. Le point de vue de la fin et le point de vue de l'ami. Le choix. Ici, l'intention de vie. Et l'amour. Est-ce que ces trois relèvent de la même puissance? Ou y a-t-il trois puissances? C'est normal dans l'analyse que je dois faire. Je dois faire cette analyse. Je veux savoir ce que c'est que ce premier amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que cette intention de vie? Non pas au niveau éthique, mais au niveau de l'opération vitale. C'est ça qui m'intéresse ici. Dont j'ai conscience. C'est une opération vitale merveilleuse que l'amour. C'est une opération vitale merveilleuse que l'intention de vie et que le choix. Trois opérations vitales qui ont un caractère très particulier, qui ne sont pas connaissances, qui sont amour. Alors qu'est-ce qui distingue cet acte vital d'aimer? Nous l'avons déjà vu dans les passions. Aimer, dirait Sartre, c'est embrasser l'arbre. C'est se jeter au cou de quelqu'un. Voilà ce que c'est qu'aimer. Ah, comme je t'aime. Pff, très bien. Oui, c'est extatique. L'amour est extatique. C'est net. Il nous fait sortir de nous et aller à la rencontre. Alors ça, on dit ça pour la connaissance, vous voyez? Il confond. Maintenant, il est trop lié à des, il est trop lié à Descartes et il est en train de redécouvrir l'amour. Mais il n'a pas redécouvert vraiment. Mais je crois que Sartre est un être plus affectueux que Descartes. Au ciel doit se jeter au cou de Descartes. Dis mon pauvre vieux, ce que tu as peu aimé dans ta vie. C'est vrai, c'est assez étonnant. Quand on aime, on est porté vers. Et dans cet amour spirituel, à la différence de la passion, je suis conscient, je peux l'être du moins, si j'y réfléchis suffisamment, que c'est une personne que j'aime. C'est pas un bien sensible, c'est une personne. Je l'aime à travers le sensible, c'est sûr, parce que je n'ai jamais vu une personne sans voir son corps, sans voir sa sensibilité. Sans la toucher. Oh, je peux aimer à distance, c'est évident. Le regard d'un certain toucher. Elle m'a regardé. Elle a touché mon cœur par son regard. Et je l'ai aimé. Vous voyez? Donc il y a un toucher plus lointain qu'est le regard. Mais ce regard, justement, est plus spirituel. Il m'a porté vers la personne. Et je me porte vers elle. Et je suis ému. Alors l'émotion, c'est passionnel. Mais au-delà de la passion, il y a quelque chose de plus. Il y a cet appétit spirituel. Cet appétit spirituel qui est un acte volontaire. C'est un acte volontaire. conscience de l'aimer. Et cet amour me trouble. Me trouble, m'inquiète plus exactement. Il me réveille. Jusque-là, j'étais tranquille, maintenant je suis plus tranquille. Je suis secoué. C'est ça le premier amour. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus le même qu'avant. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose de particulier? Il y a quelque chose qui se passe. Alors, c'est lié à la passion, dans le vécu, c'est sûr. Mais au-delà de la passion, on aime une personne. Donc, il y a cet amour spirituel. Si j'analyse cet amour spirituel, c'est ça qu'il faut le comprendre. Si j'analyse cet amour spirituel, puisqu'il est premier cet amour, l'amour spirituel, ce premier amour, si je l'analyse, je dis qu'il est de moi, il vient de moi, et j'en ai parfaitement conscience, c'est moi qui aime, c'est ma propre personne qui aime, et je vais vers. Donc, il exige au-dedans de moi une certaine puissance, une certaine faculté, une certaine puissance, une capacité, mettez une capacité qui est en moi, une capacité d'être déterminée par ce bien spirituel que je connais très peu, très peu. capacité. Et je vois que cette capacité a ceci de très particulier, c'est que c'est un bien spirituel qui apparaît comme un tout, comme un certain absolu. Un certain absolu qui m'attire. Et je ne cherche pas en premier lieu à posséder, je l'aime. Aimer, c'est pas posséder. Aimer, c'est au contraire quelque chose de très gratuit. Je porte vers cette personne. Je suis attiré. Attiré, c'est l'attraction. Beaucoup plus. Le bien attire. Il détermine dans une attraction. Je constate que, après réflexion, cette union affective qui est l'amour. L'amour, c'est une union affective. Je suis en connaturalité avec cette personne. C'est une union affective qui demeure intentionnelle. Je vais essayer que cette union affective permette une union effective. C'est le passage de l'union affective à l'union affective, nous avions déjà vu ça, qui me fait comprendre le passage de cet amour spirituel, extatique, avec cet acte volontaire, l'intention de vie, cette réflexion de l'intention de vie. Je choisis cette intention de vie. J'accepte cette intention de vie. Qu'est-ce que ça représente au point de vue de l'analyse? Cette intention de vie a quelque chose qui implique un ordre. C'est toutes mes capacités qui sont mobilisées pour chercher à connaître mieux, à être plus proche de cette personne que j'aime, que cette personne qui a éveillé en moi cet amour. Je veux la connaître, je veux savoir qui elle est et je veux me faire connaître à elle. Donc je passe de l'union affective à une union, une recherche d'une union effective. Ce n'est plus seulement le bien, ça devient une fin. L'intention de vie porte sur un bien qui est fin. Ah ! Est-ce que cette fin exige une nouvelle faculté, une nouvelle puissance ? J'aurai une puissance d'aimer, une puissance d'intention de vie. Est-ce que c'est juste de dire ça? Ou est-ce que tout simplement, le bien aimé, le bien spirituel aimé, c'est lui-même qui demande d'être aimé d'une manière nouvelle, plus précise, comme étant ma fin. Eh bien, je découvre que ce qui est ma fin ne peut être que mon bien. Et donc, ce n'est pas une nouvelle puissance, c'est la même puissance qui coopère davantage avec l'intelligence, avec la connaissance. L'amour spirituel a cette capacité merveilleuse d'avoir conscience de ce qu'il est et de constater que son imperfection peut progressivement se perfectionner, disparaître. Je peux passer de l'union affective à l'union effective. Et ce passage de l'union affective à l'union effective implique que le bien qui m'attire ne soit plus seulement le bien qui m'attire, mais ce soit le bien que je recherche. Le bien qui m'attire réclame d'être le bien que je recherche. ce passage du bien qui m'attire, au bien que je recherche, n'exige pas une nouvelle puissance. Puisque c'est ce même bien qui m'attire que je recherche. Mais je saisis autre chose en ce bien. Je saisis que ce bien, d'une certaine manière, me transcende. Parce qu'il m'attire, il me transcende. C'est le même bien. Si ce bien était tout à fait immanent à moi, il ne m'attirerait pas de la même façon. Pourquoi ? C'est une chose très curieuse. Pourquoi ? Je peux être plus sans attraction pour un autre que pour moi. La question est là. On n'est jamais à soi-même sans attraction. On se tolère, on se supporte. Mais on n'est pas à soi-même sans attraction. Même quand on se regarde dans la glace, c'est quel drôle d'individu. Et voilà cet individu qui, en lui-même, se supporte. Il attire un autre. Quel coup a-t-il, celui-là, d'être attiré par celui qui est moi-même? Vous voyez cette chose curieuse. Et ça, c'est très très intéressant à voir. Je m'aime. Autant que possible, je dois considérer, oui, que je m'aime moi-même. Je m'accepte. Je sais très bien que ce ne serait pas bien de me refuser et de me haïr. Ce ne serait pas bien. Et je me découvre comme étant capable d'attirer quelqu'un d'autre. Et j'attire quelqu'un d'autre, pourquoi ? Parce qu'il y a en moi quelque chose de transcendant par rapport à l'autre. Tandis que je ne suis pas transcendant pour moi. Est-ce que Dieu est transcendant pour lui ? C'est curieux, ça. Hein ? Ça va très loin. Alors, est-ce que c'est la qualité propre du bien de transcender ? Ou est-ce que c'est la qualité de tel bien de transcender par rapport à tel autre ? Si c'était la qualité du bien de transcender, quand Dieu s'aime, il se transcende. Ça ne va plus du tout. Cosa sui de Descartes. La qualité du bien, c'est d'attirer et de susciter un amour. Ce n'est pas de transcender. Il transcende quand je vois que ce bien m'attire et que je ne suis pas uni à lui d'une manière parfaite. Il me transcende en raison de la distinction qui existe, de la différence qui existe entre l'union affective et l'union effective. C'est là où naît la transcendance. S'il n'y avait pas de différence entre union affective et union effective, il n'y aurait pas de transcendance. Je resterais dans l'immanence. Tandis que la transcendance apparaît à partir du moment où je vois la différence entre l'union affective et l'union affective. Ça me semble très important de saisir ça. Parce que c'est à partir de là que je saisis ce que c'est que la fin. Donc la fin n'est pas un nouvel objet au sens premier. Au sens fort, la fin détermine dans la mesure où il est mon bien. Donc c'est en tant que bien qu'il détermine, qu'il spécifie. En tant que fin, il me mobilise d'une manière effective. L'efficacité, l'efficience, n'est pas ce qui détermine la volonté, contrairement à Descartes. C'est là l'erreur de Descartes. dans la mesure où justement il me transcende, parce que l'union affective n'implique pas l'union affective. Et alors à ce moment-là, ce bien mobilise toute ma vitalité et je cherche ce bien. Le bien n'est plus seulement ce qui m'attire, mais il est celui que je cherche. Et à ce moment-là, il y a cette transformation à l'intérieur même de l'amour que j'ai pour ce bien, que ce n'est plus seulement un amour, c'est une intention de vie. L'intention de vie implique donc que le bien devienne fin. Alors, quelle différence y a-t-il entre les deux ? Le bien attire, la fin mobilise toutes mes capacités d'efficacité. La fin mobilise en moi tout ce que j'ai de possibilités, d'efficience, d'efficacité. C'est le propre de la fin, ça, de réaliser ça en moi. Mais le réalise au nom du bien. C'est parce qu'il est un bien que je cherche pour lui-même qu'il est ma fin et qu'il mobilise tout ça en moi. Alors, cette mobilisation de toutes mes forces qui sont en moi, est-ce qu'elle s'exige une nouvelle faculté ? Bien, je dis non. Elle n'exige pas une nouvelle faculté. Parce que cette efficience n'existe qu'à partir de l'amour du bien. Je supprime l'amour du bien. Il n'y a plus aucune efficience. Donc, il provient de cette efficience. Il provient de cet amour. C'est cet amour du bien qui implique et qui réalise en moi et qui désire réaliser en moi cette source efficiente. Donc ce n'est pas une nouvelle faculté, une nouvelle puissance. C'est la même puissance qui est capable de ça. Pourquoi elle est capable de ça? Parce qu'elle est spirituelle. Alors c'est ça qu'il faut bien saisir. C'est parce qu'elle est spirituelle. Un bien spirituel, je peux l'aimer dans une union affective qui demeure lointaine, puisque cette faculté, cette puissance spirituelle saisit le bien dans ce qu'il a de premier, en tant qu'il est premier, en tant qu'il est fondamental. Mais c'est dans ce sens-là que je dirais que la volonté regarde la ratio boni. Elle regarde dans le bien ce qu'il y a de premier, ce qu'il y a de fondamental. Elle ne regarde pas uniquement les choses secondaires. Elle regarde ce qu'elle premier. Alors parce qu'elle regarde ce qu'elle premier, elle peut mobiliser en moi toutes mes capacités d'exercice divin, d'exercice humain pour atteindre ce bien. Et je passe de l'union affective à l'union effective. Mais c'est bien le bien qui réalise ça. Et je peux faire le même raisonnement pour le choix. Je choisis un bien. Donc c'est au nom du bien que je choisis. Comme c'est au nom du bien que je pose cet acte d'intention. Puisque c'est au nom du bien que je choisis, c'est encore la même faculté, la même puissance qui porte sur le bien. La même puissance porte sur le bien, mais à trois niveaux différents. Le bien en lui-même, que je découvre. Le bien en tant qu'il est fin. Et le bien en tant que je le choisis comme ami. Donc, vous voyez les trois aspects de l'acte volontaire. non pas comme un moyen, mais à la manière d'un moyen. À la manière d'un moyen, comme ceux qui se présentent à moi le plus immédiate. Rien n'est plus proche de moi que mon bien. Et donc rien ne peut être plus choisi que le bien, que l'ami. Donc caractère immédiat. Le bien est immédiat. Il n'y a pas d'abstraction. Ça n'existe pas dans la vie intellectuelle, ça. Il n'y a pas d'abstraction. Donc le bien m'est donné immédiatement. Et je peux immédiatement le choisir. En le choisissant, je suis lié